chez les Watts.
Psychothérapie.
Peut-être une victoire française et un maillot jaune, peut-être.
Franck Fitzik.
Et oui, c'est vrai qu'avec lui, on n'est jamais déçu. Il y a toujours quelque chose à dire.
Let's sort de ce corps.
Je vois là-bas le peloton.
Jour 16. Il est 10h30. Et nous allons partir pour Redon, gare SNCF. Redon, gare SNCF, où nous allons récupérer Thibaut. Thibaut dit le Dacou, qui est un partenaire historique de Franck Fitzik. Ça, c'est sûr et certain. Les premiers jeux ensemble, les premiers prix ensemble, les nominations à des prix ensemble. Et qui m'a même aidé sur le livre, beaucoup. Ah là là! Et qui est pas pour rien non plus dans l'organisation de ce voyage, quoi. C'est lui qui a trouvé l'annonce pour le vélo. Voilà, l'annonce en ligne chez Decathlon, occasion, quoi. Pour le vélo, c'est quand même pas rien. Et pas mal d'aides sur la sélection de l'équipement. Bref, quelqu'un qui compte, quoi. Quelqu'un qui pèse. Il pèse dans le game, il pèse dans la vie. Donc on va le retrouver. Chemin de halage, toujours le long du canal de l'île et l'Arne, là. On est toujours au camping. Hop, et je repars d'ici 3-4 minutes. Le vélo est rangé. J'ai eu beaucoup de mal à faire sécher la tente. C'est chiant de faire sécher la tente. Surtout, là, ce matin, il y avait beaucoup de rosée. Le ciel est couvert. Il y avait du brouillard. Il y avait un genre de vieille pluie, là, toute fine, là. Donc tout s'était trempé à l'intérieur à cause de l'évapotranspiration de la nuit. C'était mouillé à l'extérieur. Mais tout le monde a un truc très très fin, quoi. Pas des grosses gouttes faciles à enlever. Hein. Vraiment quelque chose de... un léger film. Mais partout. Donc à faire partir, c'est chaud, quoi. Bon, au moins la bâche du dessous était pas mouillée, quoi. C'était vraiment celle du dessus. Mais c'est chiant, hein. C'est chiant, c'est chiant. De toute façon, c'est pas sec. Hein. J'ai rangé, c'est pas sec, mais hein, t'en as pour des heures, là. Et là, il fait un petit peu lourd. Je ne sais pas quelle température on est, mais je me suis levé, je me suis dit, oh, allez, je mets ma veste chaude. Et puis au final, au bout de 20 minutes, à faire des étirements, je l'ai vite retiré parce que, mine de rien, il fait un peu chaud. Je regarde vite fait. Il fait 24 degrés, là. Et je pense que quand je me suis levé, il faisait déjà 20. Donc après-midi, ils disent 28 encore. Ça va être pas mal. Ah là là. J'ai une tension là. Ah, hanche qui est revenue. Enfin, hanche bas du dos là. Articulation sacro-iliaque. Douleur. Une douleur que j'ai bien connue. Ça me fait chier. Ça c'est ramasser les patates, ça. Et derrière, je me suis mal étiré les fessiers et le psoas. Et bim. Donc, c'est chiant parce que vraiment, ça fait l'impression que ça coince. Et enlever ça, je sais que ça prend quelques jours. Et c'est bien emmerdant, quoi. C'est vraiment des étirements à fond et limite une manipulation. Mais bon. Ce soir, il faudra faire très attention à ça. J'ai quand même fait des étirements ce matin, là. Un petit peu partout, dos, épaules, surtout bas du dos. Parce qu'hier, bas du dos, c'était vachement... vachement vénère, mais j'ai bien pédalé aussi au matin, je crois que j'ai bien tiré, et même au niveau des ischios et des quadris, enfin un peu partout, quoi. Ça se crée vite les tensions, surtout là quand tu restes. Ah, tu vois, il y a une différence entre faire un effort pendant une heure, deux heures, et faire une activité physique pendant 5, 6, 7 heures, quoi. Ça, c'est pas le même délire, quoi. Quand tu fais du vélo pendant 6 heures dans la journée, à la fin, ton corps, il est contracté de la tête aux pieds, quoi. Donc au niveau des trapèzes et tout, c'est vite pas endolori, tu vois. Mais tu te contractes et ça se durcit. Et vraiment, tu perds en souplesse très très vite. Particulièrement si tu t'hydrates mal et si tu n'apportes pas assez de sels minéraux, quoi. Donc ça va que j'ai pas encore eu de crampes et tout. J'ai eu une grosse crampe, mais c'est quand j'étais chez Benoît et Catherine. Il y a un jour où j'ai pas bu assez. Et ben le soir, bah, aucune pitié. Aucune pitié. Il est midi 30 et je suis posé au bord du canal, toujours le même d'ailleurs. Et on est passé par un petit patelin là, c'était sympa. Il n'y a pas grand monde sur la route, j'ai quand même croisé une bonne quinzaine de cyclistes, parce qu'on est sur une voie verte. Hein. Donc j'ai croisé une quinzaine de cyclistes. Il n'y a que des vieux, la vache. Que des vieux. Hein. En même temps, ça a été la rentrée. C'est la rentrée cette semaine d'ailleurs, je sais plus. La moyenne d'âge, plus de 60, c'est sûr. Pas mal de pêcheurs ici d'ailleurs. Je les faisais chier avec ma musique, je crois. Hein. Je me rends pas compte à quel point je mets la musique fort quand je suis sur le vélo, parce qu'elle est tournée vers moi. Donc moi, je fais en sorte d'entendre très bien, parce que l'enceinte est très bonne, donc j'entends très bien. Mais je n'ai pas conscience d'à quel point on entend très loin aussi. Je crois qu'on entend très loin. J'ai eu l'impression d'importuner quelques personnes. Ouais. Bah, il me reste pas beaucoup. Hein. Je crois qu'il me reste même pas 20 km à faire. On en a fait 20 là, je crois à peu près. Hein. Je suis pas sûr, mais à peu près. Tranquillement, vraiment petit rythme. J'ai pas grand chose à manger. Là, le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde. Donc j'ai mangé des fruits secs et des noix. Et une pomme, d'ailleurs. Mais ouais, il faudra qu'on trouve quand même un sandwich ou un truc comme ça. On verra, on verra. Là, j'ai le temps avant que l'autre arrive en train, là, 19h, la vache. Donc, ça, c'est le ciel est toujours couvert. Hein. Mais je vois que dans la direction où je vais, là, c'est... ça s'éclaircit très très vite. Il ne reste plus grand-chose, donc c'est bien. Moi, je me suis posé sur un banc tranquille et je me suis dit, tiens, vu qu'on a du temps, et que je suis tranquille, il n'y a personne, est-ce que je me... Bon, déjà, je vais faire des étirements parce que c'est nécessaire. Et puis, est-ce que je lirai pas un petit peu, là? Oh là là, d'ailleurs, tout à l'heure, grand moment, en bord de canal, là, je roulais et puis d'un seul coup, un aigle, vous savez, pas une buse, quoi. Mais si c'était une buse, c'était une très grosse buse, quoi. Moi, je pense que c'était un aigle. Un aigle, là, qui décolle. Et peut-être sur 20 mètres, qui vole à peu près à ma hauteur, à mon allure, en me regardant un peu bizarrement, en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et grand moment, quoi. Émouvant. Bon, évidemment, j'ai failli chialer. Mais c'était assez impressionnant. On se serait cru dans Assassin's Creed, quoi. Vraiment, le truc... Si je tendais ma main, il venait se poser dessus, quoi. C'était beau. Ouais, je me suis dit, je vais lire un peu, là, les fourmis, parce que ça fait quelques temps que j'ai pas lu. Et puis, c'est un bon livre, hein, donc c'est con. Et je me suis dit que je vous raconterai un petit peu ce qui se passe dedans, quoi. Alors, je vous lis la quatrième de couverture. Le temps que vous lisiez ces lignes, 700 millions de fourmis seront nés sur la planète. 700 millions d'individus dans une communauté estimée à 1 milliard de milliards, qui a des villes, sa hiérarchie, ses colonies, son langage, sa production industrielle, ses esclaves et ses mercenaires. Ses armes aussi, terriblement destructrices. Lorsqu'il entre dans la cave de la maison léguée par un vieil homme entomologiste, Jonathan Wells est loin de se douter qu'il va à leur rencontre. À sa suite, nous allons découvrir le monde fabuleusement riche, monstrueux et fascinant de ces infraterrestres. Au fil d'un thriller unique en son genre, où le suspense et l'horreur reposent à chaque page sur les données scientifiques les plus rigoureuses. Voici pour la première fois un roman dont les héros sont des fourmis. Et c'est pas mal, hein, c'est vraiment bien. Il y avait quelqu'un qui m'en avait parlé en 2013, un truc comme ça, et qui m'avait dit, moi, ça a changé ma perspective sur le monde, quoi. Je vois plus les choses de la même manière, et je commence à comprendre, hein. Je commence à comprendre avec tous les détails qui sont donnés, parce que vraisemblablement, Bernard Werber, il a fait des grosses recherches sur les fourmis avec des scientifiques et tout, donc intéressant. Donc ce qu'il raconte est romancé, mais vraisemblablement sourcé, sur la manière dont ça fonctionne. et la, la fonctionnalité, le système de direction des cités de fourmis, et puis la complexité, l'organisation de tout ça, c'est assez impressionnant. Et justement, il explique qu'il n'y a pas de... Il explique un concept intéressant pour nous. Et un des trucs qui peut se remettre en perspective avec nous, quoi. Et la folie de nos institutions. C'est qu'il explique que... en fait, les fourmis dans une cité naissent avec une fonction. Donc elles naissent un peu... C'était quoi le truc qui s'appelait... C'était ça, la divergente, un truc comme ça? Non, c'est pas cette merde. C'était nul. Oh la vache, c'était nul, divergente. Hein. Oh là 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 là. Il y en avait combien? 3, 4? Oh, c'était nul à chier. Bref, divergent... non, pas divergent. Mais tu nais avec une fonction. Parce que morphologiquement, elles ont évolué pour développer certaines capacités pour remplir cette fonction. Donc globalement, il y en a, alors je crois qu'il y en a plus, mais il y en a trois grandes classes, qui sont les exploratrices, les guerrières et les ouvrières. Après, tu as la reine, puis après, il y a, voilà, les mâles. Les mâles ne font pas partie de ces classes-là déjà. Ils accompagnent, je crois qu'ils voilà, ils rejoignent un peu ce qu'ils veulent. Je me souviens plus exactement ce que font les mâles, parce qu'ils y passent pas beaucoup de temps. C'était au début du point, je m'en souviens plus trop. Mais voilà, il y a un moment, donc nous on va suivre un mâle, le 327e, qui va accompagner un groupe d'exploratrices. Et lui il part un peu voir un truc à droite à gauche, et il revient et tout le monde est mort. Il y a eu un truc et tout le monde est mort. Et il explique que bah, les guerrières, enfin les exploratrices, n'étaient pas en position de défense, donc ça veut dire qu'elles n'ont pas eu le temps de se défendre, etc. Donc il revient à la cité en disant, attention, il y a une attaque, elles sont mortes et tout, on s'est fait attaquer, mais je sais pas quoi, il y a un problème et tout. Donc, personne ne le croit. Et va se monter une sorte de complot où en fait il y a des fourmis qui peuvent recruter des fourmis dans d'autres cités parce qu'elles se font la guerre. Et c'est des genres d'argent infiltré quoi. Un truc de malade. Si c'est vraiment vrai, c'est un truc de fou. Et en fait, le principe qu'il explique derrière tout ça, en tout cas là où j'en suis arrivé, c'est que il n'y a pas de chef, en fait. Il n'y a pas de chef dans l'organisation des fourmis. C'est un... Il y a la reine qui est là, mais elle est plus là en tant que rôle de conseillère, d'ancienne, de maman, quoi. Mais c'est pas elle qui dirige, en fait. Il n'y a personne vraiment qui va diriger. Et ces groupes d'action sont des groupes d'action à l'initiative des citoyens de la cité. Et ça, c'est quand même très, très intéressant. Et donc, là où j'en suis arrivé... Alors attention, vous spoilez pas, hein, parce que là j'en suis à la page 117 sur 300, donc je suis à la moitié quasiment. Donc on est déjà avancé. Mais le principe, c'est que il explique que, en fait, pour que lui réussisse à convaincre les autres qu'il y a bien un problème, qu'il y a bien un souci, qu'il y a eu une attaque, et que la cité en fait est infiltrée et est sous attaque, il faut qu'il réussisse à être proactif et à lancer son initiative citoyenne, à monter son propre groupe et à lui convaincre des gens, etc., etc. Pour monter un groupe d'action qui va contrer cette attaque d'une autre cité. Et je trouvais ça le principe vachement intéressant, quoi. Ce truc de, si tu veux qu'il se passe quelque chose, passe à l'action, quoi. Je le résume comme ça, hein, mais je trouvais ça vraiment, vraiment bien expliqué, et c'est bien écrit, et là on est vraiment en plein dedans. Ça se trouve, ça évolue au fil du bouquin, mais justement, je me suis dit, tiens, si on avançait un petit peu sur le bouquin ensemble, alors, on est page 117, et du coup, ouais, il y a ces deux histoires en parallèle, quoi. Il y a les histoires des fourmis, et puis il y a l'histoire de Jonathan Wells, qui est en parallèle, qui est un mec... qui habite avec sa femme et son gosse dans une baraque, dans une ancienne baraque de son oncle. Le chien descend à la cave et il le retrouve mort. Enfin, déjà, son oncle lui avait dit, surtout, tu vas jamais à la cave, c'est chaud, il se passe des trucs. Bon, on comprend pas trop. On comprend pas trop. Bon, on se doute bien qu'il va y avoir un truc avec les fourmis, hein, qui sont des, qu'on décrit à un moment comme des machines à tuer horribles, qui lacèrent et tout. Et le chien est retrouvé avec des lacérations et tout. Des milliers de lacérations qui font qu'il s'est vidé de son sang et tout. C'est assez, ouais, assez joyeux à ce moment-là. Et après, il s'enferme, il va explorer des tunnels pendant des centaines de mètres. Il trouve jamais la fin. Donc tu as cette histoire-là et les fourmis en parallèle. Donc on se doute bien qu'à un moment, tout va se rejoindre. Enfin, les deux lignes vont se rejoindre. Et il y a des chances que Jonathan Wells soit le truc qui a tué les fourmis, quoi. Mais bon. Donc maintenant, je réfléchis pas mal quand je vois des fourmis, quoi. Quand je vois des fourmis, et même les insectes et tout, là, n'importe quel insecte, je me dis... Ça se trouve, ce truc appartient à une cité vachement complexe à 10 mètres de moi, quoi. Et donc ça met pas mal en perspective les choses. Il y a une araignée qui est en train de monter sur ma roue, voilà. Ça, je me retrouve. Tous les insectes sont intéressés par mon vélo. Je ne sais pas ce qu'il a. Bon, on y va. Effarés, ils inspectent la salle macabre. Qui peut bien t'avoir tué ici, juste sous les pieds de Belokan? Alors Belokan, c'est le nom de la cité dans laquelle on est. Sûrement quelque chose qui provient du dessous, émet le 327e mal. Ouais, alors il y a des chiffres tout le temps, ça c'est un peu relou. Forcément, à lire à haute voix, ça va être chiant. Mais bon, rapidement, quand tu le lis, ça va vite, quoi. Tu vois juste le chiffre et tu le lis plus dans ta tête. Parce que moi, je lis très très lentement. Je lis vraiment tous les mots dans ma tête, quoi. Il y a des gens qui passent les yeux comme ça, à toute vitesse sur le bouquin, j'ai jamais compris. Moi, je lis à deux tensions. Moi, je lis vraiment dans ma tête comme je lis à haute voix, quoi. Je n'y crois guère, réplique la 56e femelle, qui lui propose néanmoins de creuser le sol. Il plante la mandibule. Douleur. Dessous, c'est du rocher. Un énorme rocher de granit, précise un peu plus tard, la 103e, 6083e, c'est le fond, ouais, je vous avais dit que c'était chiant. C'est le fond, le dur plancher de la ville. Et c'est épais, très épais. Et c'est large, très large. On n'en a jamais trouvé les limites. Après tout, c'est peut-être même le fond du monde. Une odeur étrange se manifeste alors. Quelque chose vient d'entrer dans la pièce. Une chose qui leur est tout de suite sympathique. Non, pas une fourmi de la meute, mais un coléoptère l'homcuse. Merde, on aurait dit l'homcuse quand même, mais c'est bizarre. Va falloir écouter un peu comment ça se prononce. J'ai dit l'homcuse, moi. Encore toute larve. Petite blagounette. Bien joué, Bernard. 56e avait entendu maire parler de cet insecte. Aucune sensation ne peut égaler celle qui accompagne l'absence du nectar de la l'homcuse, une fois qu'on y a goûté. Fruit de tous les désirs physiques, sa sécrétion annihile les volontés les plus farouches. La prise de cette substance, de fait, suspend la douleur, la peur, l'intelligence. Les fourmis, qui ont la chance de survivre à leur pourvoyeuse de poison, oh là là, et je commence à voir double, hein, la vache. Donc les fourmis qui commencent à survivre, non, oh là, mais il faut tourner la page aussi. Les fourmis qui ont la chance de survivre à leur pourvoyeuse de poison quittent irrésistiblement la cité à la recherche de nouvelles doses. C'est la cocaïne de la... Non, c'est quoi la nouvelle drogue là aux États-Unis? Je me souviens plus. Ah, celui qui est encore pire que le... Avec la petite cuillère, la merde, mais je perds tellement de mots en ce moment, c'est fou. Oh, fait chier. Oh, je me souviens plus. Ils m'ont dit que c'était les effets du burn-out, ça. De perdre des mots comme ça. Une quantité de trucs incroyables là, que mon cerveau a paumé, quoi. C'est fou. Surtout, ça revient après, mais... J'ai perdu des connexions dans le truc, quoi. Et je vais pas la retrouver, en plus, hein. Bon, tant pis, ça reviendra. Putain, j'ai le lait sur le bout de la langue, merde. Oh, ça va revenir. Je vais lui hurler quand ça va revenir. Elles ne mangent plus, ne se reproduisent plus, et marchent jusqu'à l'épuisement. Puis, si elles ne retrouvent pas de l'homcuse, elles se collent à un brin d'herbe et se laissent mourir, parcourues par les mille morsures du manque. L'enfant 56e avait un jour demandé pourquoi on tolérait l'entrée de tels fléaux dans la cité. Que termites et abeilles massacrées pour leur part sans management. Mère lui avait répondu qu'il existe deux manières d'affronter un problème. Soit on l'empêche d'approcher, soit on se laisse traverser par lui. Ça, c'est très très beau, ça aussi. C'est très très fort. C'est très très fort. C'est des principes comme ça qu'il émet un peu partout, et c'est super. La seconde n'est pas forcément la plus mauvaise. Les sécrétions de l'homcus bien dosées ou mélangées à d'autres substances deviennent en effet d'excellentes médecines, comme la bœuf. Voilà. Et merde, c'est quoi l'autre? Putain, avec la picouse, là. C'est fou, mais je l'ai en plus, hein, mais ça sort pas. Oh, c'est dingue. Le 327e mâle s'avance le premier. Subjugué par la beauté des arômes émanant de la lomcuse, il lui lèche les poils de l'abdomen. Oh, le coquin. Ceci suppure des liqueurs hallucinogènes. Fait troublant, l'abdomen de l'empoisonneuse, avec ses deux longs poils, a exactement la même configuration qu'une tête de fourmi avec ses deux antennes. La 56e femelle se précipite elle aussi, mais elle n'a pas le temps de commencer à se régaler. Un jet d'acide siffle. Ah oui, parce qu'il y en a qui peuvent tirer de l'acide dans cette espèce-là. 103... Putain, c'est chiant à lire hein, comme ça. 103-683e a dégainé et tiré. Merde, la page s'est retournée toute seule. Et tiré. La lomcus brûlée se tord de douleur. Sobrement, la soldate commence son intervention. Il est anormal de trouver cet insecte à une telle profondeur. Les lomcus ne savent pas creuser la terre. Quelqu'un l'a amené volontairement pour nous empêcher d'aller plus loin. Il y a quelque chose à découvrir par ici. Les deux autres, penauds, ne peuvent qu'admirer la lucidité de leurs camarades. Tous trois cherchent longtemps. Ils déplacent les graviers, hument les moindres recoins de la pièce. Les indices sont rares. Ils finissent cependant par déceler un remugle. Un remugle? Qu'est-ce que c'est que ça, un remugle? Un remugle connu. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, je ne connais pas ce mot. Ben attends, on va chercher. Un remugle? Mon Dieu. Je vais demander à Google. Google. Non, pas Google d'ailleurs. Ecosia. Remugle, Google. Remugler. Ah ouais. J'ai jamais entendu ça. Vieilli ou lité. Odeur prenante et désagréable qu'exhale ce qui a longtemps été renfermé ou maintenu dans une atmosphère viciée. Sentir le remugle. D'accord. Certains, en revenant dans une maison, dans une vieille maison, respirent à pleine narine l'odeur d'humidité et de remugle. D'accord. Remugle de cigare froid. D'accord. Remugler. Exhaler quelque chose qui est un remugle. D'accord. Bon, là, ils sont pas foulés pour la définition. Ok, d'accord. Je m'avoue vaincu. C'est pas tout. Hein. J'ai jamais lu le dictionnaire. Hein, donc, il faudrait. Hein, il paraît que ça marche bien. Ça ferait revenir des mots, du coup. Bon, remuglé, c'est bon, je l'ai en tête, là. La petite odeur de roche des assassins. Ah oui, les assassins. Ah oui, parce que du coup, c'est les traîtres. À peine perceptible. Ah oui, parce que, en fait, le truc des roches des assassins, c'est parce que les autres cités, l'autre cité, là, ils ont la particularité de sentir la roche. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est l'odeur de la roche. Mais ils sentent la roche, et du coup, ils savent qu'ils appartiennent à l'autre tribu. Du coup, voilà, les traîtres, en fait, ont une très très légère de roche, odeur de roche. Donc, ils savent les repérer comme ça. À peine perceptible, juste deux ou trois molécules, mais cela suffit. Elle provient de là, juste sous ce petit rocher. Ils le font basculer et dévoilent un passage secret. Encore un. Seulement, celui-ci a une caractéristique de taille. Il n'est creusé ni dans la terre, ni dans le bois. Oh, le petit rototo. Il est carrément excavé dans la machine granit. Non, c'est pas du tout ce qui est marqué. J'ai pensé au petit rototo en même temps. Il est carrément excavé dans de la roche granit. Ouais, là ça marche. La machine granit, qu'est-ce que c'était que ça? Aucune mandibule n'a pu s'attaquer à un tel matériau. Le couloir est assez large, mais ils descendent prudemment. Après un bref trajet, ils tombent sur une vaste salle remplie de nourriture. Farine, miel, graines, viandes diverses. Il y en a des quantités surprenantes, de quoi nourrir la cité pendant 5 hibernations. Et tout ça dégage la même odeur de roche que les guerrières qui les poursuivent. Comment est-il possible qu'un grenier aussi bien fourni ait été secrètement aménagé ici, avec une lomcus pour en bloquer l'accès qui plus est? Cette information n'a jamais circulé entre les antennes de la meute. Parce qu'apparemment, ils peuvent se parler en frottant leurs antennes, un truc comme ça. Ils se restaurent copieusement, puis réunissent leurs antennes pour faire le point. D'ailleurs, tiens, quand on parle de machin, hop, on a une sur le bras. Cette affaire devient de plus en plus ténébreuse. L'arme secrète qui décide l'expédition numéro 1, les guerrières à l'odeur spéciale qui les attaquent partout, la lomcuse, la cachette de nourriture sous le plancher de la cité, cela dépasse l'hypothèse d'un groupe d'espions mercenaires au service des naines. Ou alors, ils sont sacrément bien organisés. 327, ça sent quand même la cave de Jonathan Wells, hein, tout ça. 327e et ses partenaires n'ont pas le loisir d'approfondir leurs réflexions. Des vibrations sourdes se répercutent en profondeur. Papa, 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 papa. Là-haut, les ouvrières tambourinent du bout de leur abdomen sur le sol. C'est grave. On en est à... Oula, attends, j'ai sauté des lignes là, non ? C'est grave. On est en alerte deuxième phase. Ils ne peuvent ignorer cet appel. Leurs pattes font automatiquement demi-tour. Leur corps, mu par une force irrépressible, hop, je tourne la page, sont déjà en route pour rejoindre le reste de la meute. La boiteuse, qui les suivait à bonne distance, se sent soulagée. Ouf, ils n'ont rien découvert. Trois petits points. Trois petits points. Voilà, c'était mieux là. Et après, on parle sur une petite section de Jonathan Wells, si vous voulez. Je l'enchaîne. En plus, elle est très très courte. Et derrière, il y a une explication, parce qu'il y a des inserts d'une encyclopédie de Edmund Wells, donc l'entomologiste, qui est l'oncle de Jonathan, quoi. C'est plutôt bien foutu, ça nous donne des infos sur les fourmis. Finalement, comme ni sa mère ni son père ne remontaient de la cave, ah oui, parce qu'à un moment, il y a la mère, il y a la femme de Jonathan qui est descendue, donc il y a Nicolas, le fils, qui est resté en haut comme un couillon. Il n'est pas très jeune, hein. Enfin, il n'est pas très vieux surtout, je crois qu'il a moins de 10 ans. Donc. Nicolas se résolut à prévenir la police, et c'est un enfant affamé et aux yeux rouges qui débarqua dans le commissariat pour expliquer que ses parents avaient disparu dans la cave, probablement dévorés par des rats ou des fourmis. Deux policiers éberlués lui emboîtèrent le pas jusqu'au sous-sol du 3 de la rue des Sibarites. Attention, la boum. Encart encyclopédique. Intelligence, suite. L'expérience est recommencée, mais avec une caméra vidéo. Sujet, 2 points. Une autre fourmi de même espèce et de même nid, point. Premier jour, 2 points. Elle tire, pousse et mord la brindille sans aucun résultat. Deuxième jour, idem. Troisième jour, ça y est. Point d'exclamation. Elle a trouvé quelque chose. Elle tire un peu, bloque en mettant son abdomen dans le trou et en le gonflant, puis descend sa prise et recommence. Ainsi, par petits à-coups, elle sort lentement la brindille. C'était donc ça. 3 petits points. Edmund Wells, encyclopédie du savoir relatif et absolu. Je ne me souviens absolument pas de première partie intelligence. Hein. Là, c'est intelligence suite. Donc là, c'est donc ça. Moi, je me souviens un peu du début. Donc, c'est ça le problème de lire une fois de temps en temps. Mais là, en plus, je pourrais le bouffer assez rapidement. Mais bon. Bon, on se retrouve plus tard. Bon, ça fait 4 heures là, ça va faire 4 heures que je l'attends. J'ai bien ralenti pour qu'il ait le temps d'arriver hein, en train, parce qu'il n'a pas voulu pédaler pour pouvoir faire avancer le train. Donc il a fallu prendre un peu les devants, enfin entre guillemets. Donc j'attends. J'ai fait 1000 fois le tour de Redon parce que c'est vraiment tout petit. En tout cas, le cœur de ville est vraiment tout petit. c'est mignon, mais sans plus, quoi. Je trouve qu'on me l'a un peu survendu. Quand j'étais assis à la terrasse d'un bar, c'était insupportable. Il n'y avait que des lycéens, et là, est-ce que j'étais comme ça? Est-ce qu'on était comme ça? C'était insupportable. Ça m'a permis d'avancer un petit peu dans le livre, mais bon, c'est compliqué. Bon, il devrait arriver d'une minute à l'autre, là. 8h51, Paris-Montparnasse. Ah là là, où est-ce qu'il est? En plus, il va encore me faire attendre. Ah, mais ça va aller, oui. Bon, j'ai entendu un train s'arrêter, je pense que c'est lui. Mais bon, il faut que je voie passer un vélo, quoi. Bon, en tout cas, moi, ce que j'ai observé à Redon, c'est que... à Redon, on s'en bat un peu les steaks du Covid. Surtout dans les bars, misère. Alors les distances, ça va, c'est pas le problème, c'est pas les tenants des bars, hein, c'est les gens. Hein. Les gens à table, pas de masque évidemment, bon, ça ils ont le droit. Mais bon, la bise, les serrages de main. Et là, même le barman, il a serré des mains à un moment. Je me suis dit, ah, il est temps de sortir le gel. Le gel hydroalcoolique, évidemment. Parce que c'était pas très Covid friendly. Hein. Redon, c'est pas la ville pour les gestes barrières. Et c'est-il pas qu'on voudrait, pas qu'on voudrait, on pourrait imaginer un nouveau cluster Redon. Le cluster Redon. Je trouve que c'est déjà un nom qui est pas trop mal. Cluster Redon. Bien, le nom d'un film un peu de série Z. C'est un mauvais truc avec une créature mythologique ou un truc qui vient du temps des dinosaures. Tiens, je vois un cycliste là-bas. Ça serait pour lui. Il a déjà son casque. Il aurait pas mis son casque quand même, si. Ah non, c'est pas lui. C'est pas lui. Il y a du monde avec cette personne. C'est pas lui. Plein de gens sortent. On a une jeune fille avec une énorme valise bleue. Pas de masque. On a un gars avec une trottinette, un casque. On vient de retirer son masque. Très beau sac. Mais ils sont fous les gens de porter des jeans avec cette température là. Non mais il fait un beau temps de malade. Et ils sont en jeans. Oh là là. Quelle folie, mais quelle folie. Quelle idée. Ah je le vois. Oh ça c'est lui ça. Casque jaune, au loin, énorme barbe, en train de galérer avec son biclot. Il monte dessus, fringant, les cuissardes. Ah ça, il n'y a plus de doute, les gants. Il est bien équipé. Le voilà, le second cerveau de ce voyage, avec ses sacoches de bikepack. Il ne m'a pas encore identifié. Probablement est-il en train d'essayer de m'appeler. Et non, il m'a vu.
Mais c'est vous?
Ça va vos gosses?
Ça va Framik?
Aïe 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 aïe, ça sort les sacoches de bikepacking.
C'est ça?
T'as la taille des roues mon gars.